Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Elle demande au président de la République de fixer sa rémunération. Chantal Jouanneau préside toujours ce matin la commission du débat public, mais elle renonce à mener les grandes discussions nationales promises face aux Gilets jaunes. Son salaire interroge, vous l'entendrez. Nous analyserons ensuite les conséquences de ces tumultes pour l'organisation du débat national.
Et pendant que les Gilets jaunes font bouger l'exécutif, les syndicats et le patronat négocient sur l'assurance chômage. Il sera question aujourd'hui des contrats courts.
Quel Brexit et pour quand ? Plus de 2 ans et demi après le référendum, la sortie du Royaume-Uni n'est toujours pas actée, ni même encadrée. Certains, vous le comprendrez, envisagent un report.
Et puis dans cette édition encore, nous rejoindrons notre correspondant outre-Atlantique après le discours à la nation de Donald Trump. Le président américain se moque de la paralysie budgétaire et réaffirme sa volonté d'ériger une frontière solide face au Mexique.
Dans un quart d'heure après ce journal, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Il analysera la stratégie du silence de Marine Le Pen. Qui donc pilotera dans 6 jours maintenant le grand débat national voulu par Emmanuel Macron ? Débat qui est censé répondre à la contestation des Gilets jaunes. Chantal Jouanneau devait jusque-là s'en charger, elle abandonne. Suite aux nombreuses critiques qui se sont élevées après la publication de son salaire, 14 666 euros bruts par mois, elle annonce son retrait, c'était hier soir, sur le plateau du 20h de France 2 face à Anne-Sophie Lapix.
J'ai constaté, et je prends acte, des questionnements sur les niveaux de rémunération, alors en particulier de la présidente de la Commission nationale du débat public, et en général des hauts fonctionnaires, puisque la question est quand même très élargie. Et donc je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat. Et donc j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat, parce que ce débat est nécessaire, il doit être serein, et il faut créer toutes les conditions pour qu'il se déroule.
Vous vous retirez du débat, mais pas de votre poste de présidente de la commission.
En parallèle,
vous conservez votre salaire.
Cette commission, j'ai été élue présidente aussi pour la défendre. Et je constate que les attaques viennent au moment où, justement, elle défend son indépendance. Ça fait 20 ans qu'on défend le droit de la participation. Ça fait 20 ans qu'on est attaqué à chaque fois qu'on défend le droit des citoyens à pouvoir s'exprimer sur les grands projets. Et donc, je maintiens ma présidence. Ceci dit, je remets dans les mains du président de la République et du gouvernement en général, d'ailleurs, le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP, qui leur appartiendra d'arbitrer, comme les autres niveaux de rémunération des présidents d'autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires.
Chantal Jouanneau, qui conserve donc pour le moment son salaire. Il n'est pas certain que cette décision apaise le débat à venir. L'exécutif va tenter de reprendre la main. Ce matin, le Conseil des ministres sera suivi d'un séminaire gouvernemental. Exercice bimestriel maintenant, qui consiste à fixer le calendrier à venir. Et aujourd'hui, c'est évidemment le grand débat national qui va occuper les discussions, Rosalie Lafarge.
Il était vu comme l'instrument de la sortie de crise. Il va finir par devenir très, très embarrassant pour le pouvoir. Ce grand débat, ça doit marcher, ça doit absolument prendre auprès de la population si on veut espérer en finir avec la contestation. Alors, pour éviter que ça ne parte encore plus dans tous les sens, Matignon veut cadrer les choses. Et c'est de ça qu'il sera question pendant ce séminaire. Le cadrage du grand débat. De quoi va-t-on discuter ? De quoi peut-on discuter ? À l'intérieur des 4 grands thèmes prédéfinis, transition écologique, fiscalité, réforme de l'État, démocratie et citoyenneté. Là-dessus déjà, les discussions pourraient être houleuses entre les partisans d'un débat très ouvert et ceux qui veulent des limites. L'exécutif n'a pas l'air d'avoir de position très claire sur le sujet. On l'a encore vu hier avec les débats autour de la taxe d'habitation. Le porte-parole du gouvernement l'assure tout de même de son côté. Ni le mariage pour tous, ni l'interruption volontaire de grossesse, ni la peine de mort ne seront sur la table. Au-delà de ça, le flou demeure aussi sur l'organisation du débat qui n'a maintenant plus d'organisatrice et sur ses conséquences sur la politique du gouvernement. Il faut clarifier tout ça à quelques jours de la diffusion de la lettre aux Français du président. Sauf que déjà, l'opposition dénonce une opération de communication, les manifestants sont loin d'être convaincus et les Français, dans leur ensemble, selon un récent sondage, semblent douter de l'impact réel de ce débat. Autant dire que l'exécutif a du pain sur la planche s'il veut éviter au grand débat de finir en grande débâcle.
Et pour éviter cela, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui devrait s'exprimer ce matin à l'issue du séminaire. Débattre plutôt que de se battre, l'appel du gouvernement sera-t-il entendu ces prochains jours ? La France en tout cas semble se scinder en deux, à l'image de ces 2 cagnottes lancées sur Internet. La première visait à soutenir l'ancien boxeur Christophe Détinger qui a frappé des policiers ce samedi. Atteignant plus de 115 000 euros, elle a été fermée au bout de 48 heures hier par la plateforme de collecte de fonds après de vives critiques. La deuxième cagnotte, lancée dans la foulée par le président LR de la région PACA, Renaud Muselier. La deuxième cagnotte, elle soutient les policiers en une journée. Hier, elle a récolté plus de 110 000 euros. En guise de cagnotte pour les commerçants, voici que les soldes s'étendent ce mercredi à l'ensemble du territoire après une partie de l'Est de la France la semaine dernière. Des remises qui, ils l'espèrent, attireront les clients moins nombreux pendant les fêtes de fin d'année en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Nous savons que les pertes dans le commerce du détail ont déjà atteint 2 milliards d'euros, sans compter l'alimentaire. C'est le secteur de l'habillement qui est particulièrement touché à Kim Kasmi.
Déjà affaibli avec un recul de sa valeur depuis 10 ans et des plans sociaux qui se sont multipliés ces dernières années, rien qu'entre 2012 et 2016, 15 000 magasins ont dû fermer, le secteur de l'habillement joue donc sa survie, avec un objectif, tenter de rattraper tant bien que mal le manque à gagner des fêtes de Noël, car la période des soldes représente traditionnellement 20% des ventes annuelles des commerçants, ce qui ne sera pas facile, car les marques et les sites internet ont déjà anticipé les ventes privées au lendemain de Noël, dès le 26 décembre, en n'hésitant pas à proposer des rabais allant jusqu'à moins 70%. La Fédération nationale de l'habillement espère donc liquider des stocks très importants, notamment dans les enseignes, qui ont fait leurs commandes il y a 3 mois juste avant les premiers blocages. Alors, si les démarques devraient être très importantes dès ce matin, reste à savoir si le prélèvement à la source n'aura pas un effet dissuasif sur les ménages. En attendant, selon Bercy, tout secteur confondu, 59 000 salariés sont au chômage partiel à cause de la crise des gilets jaunes. 92% d'entre eux travaillent dans des PME.
Hakim Kasmi. Et en ces temps où l'on parle d'argent, où l'on compare les montants, voici maintenant des chiffres qui détonnent. Les entreprises du CAC 40 ne se sont jamais aussi bien portées depuis la crise financière. Elles enregistrent pour l'année 2018 des dividendes records en hausse de 12% par rapport à 2017. Elles ont ainsi versé à leurs actionnaires 57 milliards d'euros l'année dernière. Et combien versera l'assurance chômage aux demandeurs d'emploi ces prochaines années? Les organisations patronales et syndicales reprennent aujourd'hui la négociation sur les règles de l'UNEDIC. Il leur faut trouver près de 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Sans cela, le gouvernement imposera ses choix. Le patronat s'oppose au système de bonus-malus sur les cotisations sociales en cas de contrats courts trop nombreux. Les syndicats, eux, craignent une baisse des droits pour les chômeurs. Un compromis donc ne sera pas simple à trouver et la CGT est prête à laisser le gouvernement se débrouiller. Son négociateur Denis Gravoux l'a dit à Annabelle Grelier.
Quand on était début novembre et que c'était le début de la négociation dans le cadre de cadrage, ouais, c'était écrit d'avance. Le gouvernement disait soit vous faites les économies par un accord, soit nous on les fera. Voilà. Sauf que là, maintenant, le gouvernement, il y a eu un mouvement social très important, travail des gilets jaunes, et qui est en train de monter. Il y a un émoi sur les sanctions contre les chômeurs, le décret qui a été pris fin décembre. Et là, donc ça veut dire que soit il y a un accord dans le cas de cadrage, c'est-à-dire une baisse de droit, c'est lui qui décide de le mettre en œuvre par l'agrément, soit il n'y a pas d'accord et c'est lui qui va se retrouver à appliquer sa aide de cadrage. Je lui souhaite bon courage et nous, on va tout faire pour que ce ne soit pas ça la politique du gouvernement en matière d'assurance chômage et on va essayer de l'en empêcher en alertant le plus de monde. Maintenant que les gens se mettent au courant sur le sujet, je crois qu'ils vont se rendre compte du danger que ça représente pour une baisse de droit au 1er juillet.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit à la rentrée favorable à la dégressivité des droits pour les chômeurs les plus aisés, les anciens cadres. C'est un serpent de mer possible ou impossible selon vous en ces temps de colère sociale?
Ce qui est souhaitable, c'est que les partenaires sociaux trouvent un accord sur la réforme de l'indemnisation du chômage. Ensuite, évidemment, comme le Premier ministre l'a indiqué, nous prendrons nos responsabilités parce que le système, il n'est pas juste. Et il n'est pas efficace. Tout le monde est perdant. Et les premiers perdants, c'est ceux dont on ne parle pas suffisamment actuellement, ce sont les chômeurs eux-mêmes. Parce que l'objectif, c'est bien de les aider à retrouver un emploi, de les accompagner, leur donner la meilleure formation possible, le meilleur bilan de compétences pour qu'ils puissent retrouver rapidement un emploi. Donc le système, il doit être plus juste, plus efficace. On a parlé des bonus-malus sur les contrats courts. Moi, je reste favorable à cette idée de bonus-malus pour les contrats courts. Quand les entreprises abusent des contrats courts, elles doivent être pénalisées. Et au contraire, les entreprises qui essayent de donner de la stabilité à leurs salariés, on a tous besoin de stabilité. Elles doivent être récompensées pour ces choix-là. Donc, je souhaite que les partenaires sociaux trouvent un accord, mais sinon, nous prendrons nos responsabilités.
Et sur la dégressivité des droits, vous n'avez pas répondu?
Je partage totalement ce qu'a exprimé le Premier ministre il y a maintenant quelques mois. Je pense que ça doit faire faire partie des sujets de discussion et des sujets sur lesquels nous aurons peut-être à trancher si les partenaires sociaux ne trouvent pas d'accord.
Ce qui était mis en place jusqu'en 2001 en France, c'est ce qui n'a pas prouvé son efficacité.
Non, mais on peut envisager d'autres formes qui soient plus efficaces. Je pense que laissons là aussi le temps aux partenaires sociaux de discuter, n'ayons pas d'a priori sur ce sujet. Il y a plusieurs formes de dégressivité possibles.
Par palier.
Il y a plusieurs formes possibles.
Bruno Le Maire, invité des Matins de France Culture. Nous vous retrouvons dans une dizaine de minutes.
8h10, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les Matins de France Culture. Fin du suspense, Thierry Mariani quitte le parti des Républicains, mais pour aller où ?
Pour rejoindre Guillaume, le Rassemblement National de Marine Le Pen en vue des élections européennes. L'ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy sera troisième sur la liste du Rassemblement National, assuré donc de monter à Bruxelles. Bruxelles qui perdra au printemps prochain tous ses députés britanniques. C'est la logique du Brexit. La Grande-Bretagne à cette date ne fera normalement plus partie de l'Union européenne. Normalement, car l'hypothèse d'un report de cette sortie de l'Union est évoquée en ce moment, Angélique Bouin.
Techniquement, c'est possible car ce sont les Britanniques qui ont fixé la date du 29 mars, 23h. Ils peuvent donc demander un report. Les 27 doivent l'accepter à l'unanimité. De sources européennes, on estime que cela pourrait passer. Mais dans toutes les têtes, il y a une date butoir, les élections européennes du printemps, car le 30 juin prochain, il n'y aura plus un seul député britannique au Parlement. Il faudrait donc que le Royaume ait formellement quitté l'Union. Theresa May aura gagné 3 mois. Mais pourquoi faire ? C'est toute la question, car du côté de Bruxelles, il n'y a plus de marge de négociation sur les conditions de ce retrait et aucune discussion en cours. Hier, la ministre française aux Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a tenté une nouvelle fois de rassurer les Britanniques sur le sujet qui fâche, le filet de sécurité. Irlandais.
C'est le seul accord possible et quand il prévoit un backstop pour l'Irlande, c'est une solution de dernier recours et si ça devait arriver, personne n'aurait envie d'y rester. Personne ne veut piéger le Royaume-Uni dans la solution du backstop irlandais.
La ministre qui écartèle aussi l'idée d'un report, mais de sources diplomatiques, on souligne qu'il pourrait avoir un intérêt politique, permettre au gouvernement britannique d'organiser un autre vote au Parlement après un premier rejet de l'accord qui semble inéluctable. Mais il faudrait pour cela un rejet d'une courte majorité et cela n'en prend pas le chemin.
Effectivement, hier, les débats ont repris au Parlement britannique et de façon très vive. Les députés ont pris la main sur le Brexit en infligeant un camouflet à Theresa May. Ils ont voté un amendement à une loi budgétaire. Amendement qui limite la possibilité pour le gouvernement d'accepter un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Le vote du Parlement sur cet accord est toujours prévu mardi prochain, voilà ce qu'assure la première ministre britannique. La demande de remise en liberté de Carlos Ghosn a été rejetée ce matin au Japon. Le patron de Renault est détenu depuis le 19 novembre dernier maintenant, toujours pour des soupçons de malversation financière en tant que dirigeant de Nissan. Hier, lors d'une audience publique, il a clamé son innocence. Face caméra, sur un ton présidentiel, Donald Trump n'a rien voulu céder cette nuit. Lors d'une allocution de 9 minutes, le président américain a redemandé au Congrès de débloquer plus de 5,5 milliards de dollars pour construire une barrière solide à la frontière mexicaine. Dans la foulée, les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants ont refusé de voter le budget. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Grégory, la paralysie partielle de l'État fédéral dure depuis le 22 décembre et a priori cela devrait durer étant donné l'impasse politique actuelle.
Oui, impasse, c'est le mot juste parce que finalement, l'allocution d'hier soir n'a absolument rien changé. Trump a décrit ce qu'il appelle une crise humanitaire et sécuritaire à la frontière et il a répété qu'il voulait ce mur à 5,7 milliards de dollars. On note que finalement, Donald Trump n'a pas choisi de déclencher la procédure d'urgence qui lui aurait permis de contourner le Congrès et de demander à l'armée, par exemple, de piocher dans ses budgets pour commencer les travaux de la barrière. Pas de passage en force, donc de la part de la Maison-Blanche, il faut dire que les conseillers de Trump lui avaient dit qu'une telle démarche serait immédiatement contestée devant les tribunaux. Statu quo donc. Et puis, même chose du côté des démocrates qui, dès la fin de l'allocution présidentielle, ont fait savoir qu'il était toujours hors de question pour eux de financer cette barrière. En vérité, ce n'est pas maintenant qu'ils sont à nouveau majoritaires à la Chambre des représentants que les démocrates ont intérêt à faire des concessions à Trump. Ce serait une erreur politique, donc il y a de forts risques que ce bras de fer, ce combat autour du mur, dure encore.
On l'a donc compris, un 19e jour de shutdown débute ce mercredi. Donald Trump, Grégory, en tant que président, n'a-t-il pas le devoir d'y mettre fin ?
Oui, mais vous savez, la Maison-Blanche peut aussi décider de laisser pourrir un peu la situation. Pendant les fêtes, le président avait dit qu'il était prêt à ce que ce shutdown dure des mois, voire des années. En vérité, Trump fait peu de cas pour l'instant de ses 800 000 employés fédéraux sur 4 millions qui ne sont pas payés. Ce sont des fonctionnaires qui pour beaucoup vivent à Washington. Ce n'est pas l'électorat de Trump et les nuisances liées à cette paralysie restent pour l'instant limitées. Donc les États-Unis entrent aujourd'hui dans leur 19e jour de shutdown. On s'approche dangereusement du record de 1995 où l'administration américaine était restée bloquée pendant 21 jours.
Grégory Phillips depuis Washington ce matin. Nous avons par ailleurs appris hier soir que l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a partagé des sondages avec un Russe soupçonné d'être lié au service de renseignement de Moscou. C'était pendant la campagne américaine présidentielle de 2016. Paul Manafort, qui a pourtant conclu un accord de plaidé coupable, est ainsi soupçonné d'avoir menti au procureur Mueller. Et puis, on l'apprend à l'instant, la Chine annonce la fin des discussions commerciale avec les États-Unis. Les résultats, dit Pékin, seront prochainement annoncés. La météo de ce mercredi qui débute en France est un temps souvent nuageux, couvert de la Lorraine jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes avec des chutes de neige possibles sur la plaine. Sur la Champagne et les Hauts-de-France, les nuages vont apporter un peu de pluie aujourd'hui. Toujours des éclaircies en revanche sur le sud-est. Comptez moins 1 degré à Clermont-Ferrand ce matin, 4 à Rennes, 5 à Bordeaux, 6 degrés à Paris, 9 degrés à Perpignan.